Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Good Morning Business, le grand entretien.
Et notre grand entretien aujourd'hui, c'est avec Vincent Ponce. Bonjour, vous êtes professeur associé à Harvard. Vous venez de recevoir le prix du meilleur jeune économiste 2023, décerné par Le Monde et le Cercle des économistes. Vous l'avez reçu avec Julia Cagé pour des travaux différents, mais vous êtes arrivé ex aequo. Ce prix, il met en avant les jeunes économistes pour évidemment leurs travaux, leurs bons travaux, mais il faut aussi qu'ils apportent des solutions aux problèmes du monde contemporain. Vous, votre truc, c'est la démocratie. Vous regardez les mouvements sociaux, la manière dont se porte la démocratie. Et pour vous, la démocratie, quand elle va mal, c'est mal pour l'économie.
Oui, tout à fait. Mon sujet, c'est l'affaiblissement de la démocratie qu'on peut constater en France, un peu partout dans le monde. On connaît les symptômes. Hein. C'est la baisse de la participation, la montée de la défiance envers les élus. Comme vous l'avez dit, la multiplication des mouvements sociaux, la montée du vote extrême, la polarisation aussi entre plusieurs partis, comme on peut le constater en ce moment aux États-Unis. Et évidemment, quand la démocratie va mal, ça crée une menace pour l'activité et pour la croissance.
Alors, je ne sais pas si je suis d'accord avec vous, parce que au fond, quand on regarde l'économie européenne aujourd'hui, mondiale, ça va plutôt bien en termes de taux d'emploi. Bon, là, ok, on a l'inflation, on a des interrogations sur la croissance, mais depuis les dernières années où la démocratie n'allait pas très bien, l'économie se portait bien quand même.
Oui, mais les problèmes politiques créent un risque. Mmh. Je pense que les négociations qui ont lieu en ce moment aux États-Unis entre les démocrates et les républicains pour se mettre d'accord sur un relèvement du plafond de la dette illustrent ce risque.
Hypothèque la croissance à venir, quoi, c'est ça ?
Absolument. Puisque en absence d'accord entre les démocrates et les républicains, les États-Unis pourraient faire défaut sur leur dette, ce qui serait une catastrophe pour les États-Unis, mais aussi pourrait créer une crise globale financière.
Il y a le côté américain, mais il y a aussi le côté quand on est mal élu, on a une difficulté à faire passer des réformes. Là, ça résonne avec la réforme des retraites en France. Vous dites aussi, tout doit se passer dès qu'on est élu. Il y a quelque chose dans l'impulsion de l'élection qui fonctionne bien et qui est positif pour la croissance.
C'est vrai qu'une élection, notamment quand elle permet l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président, d'un nouveau parti, crée en général une vague d'enthousiasme.
Il faut qu'il soit nouveau, il ne pourrait jamais être réélu.
Alors, j'ai fait un travail avec deux collègues où on a constitué une base de données avec 4000 résultats d'élections présidentielles et législatives dans le monde entier depuis 1945. Et on s'est posé exactement la question que vous posez, c'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux réélire le président sortant ou est-ce qu'il vaut mieux élire un nouveau président ? Et on s'est rendu compte que élire un nouveau président permet en général d'améliorer la performance économique du pays, qu'il s'agisse du taux d'inflation, du taux de chômage.
Oui.
Et la raison de ça, c'est que très souvent, le nouveau président ou un nouveau parti qui prend le pouvoir, par exemple, à l'Assemblée nationale, va être en mesure de changer les politiques, d'adopter des politiques qui sont plus adaptées au contexte dans lequel le pays se trouve.
C'est intéressant, ça veut dire que si on suit vos travaux, il faudrait changer la Constitution pour qu'elle soit performante économiquement. Et que pour que les institutions soient performantes économiquement, il faudrait par exemple instituer le mandat non renouvelable pour un président. Par exemple, un septennat non renouvelable.
Pas forcément, et c'est là qu'il y a une subtilité, puisque le fait pour le président en place de savoir qu'il va peut-être pouvoir se présenter pour être réélu, signifie qu'il a des incitations à faire des efforts pendant son premier mandat. Donc s'il n'avait absolument aucune chance, si constitutionnellement c'était impossible de se représenter, les résultats qu'on observe ne seraient pas forcément au rendez-vous.
Mais alors, donc on fait quoi ? Parce que du coup, c'est ce que vous dites s'applique au deuxième mandat. On n'est pas réélu, irrééligible, en tout cas c'est le cas notamment pour la France ou les États-Unis. Du coup,
alors comme souvent,
c'est quoi la meilleure solution alors économique ?
Trouver le bon équilibre et en termes de recommandations institutionnelles, ce qui est important, c'est de s'assurer que l'opposition a les moyens de faire campagne. Puisque dans beaucoup de pays, quand on est le président en place, on a une notoriété, une exposition médiatique, l'accès à des donateurs auxquels ses concurrents n'ont pas accès. En France, de ce point de vue-là, on est plutôt bien lotis. On peut se féliciter de nos règles de financement.
Avec le plafonnement des campagnes.
Avec le plafonnement des campagnes et surtout le remboursement à hauteur de à peu près 50% des dépenses de campagne.
Je le disais en préambule, pour avoir ce prix, il faut proposer des solutions. Du coup, comment on fait pour être mieux élu, pour soigner la démocratie ?
Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur plusieurs moments du cycle électoral. Et le premier moment, évidemment, c'est tout simplement que les électeurs se déplacent, qu'ils aillent voter.
Ah oui, mais...
Et de ce point de vue-là, on a l'impression qu'on est, on n'a aucune prise sur le problème, puisque la démocratie est par essence désagrégée, donc la décision d'aller voter repose sur des dizaines de millions de citoyens. Donc je me suis dit, essayons de comprendre pourquoi tant d'électeurs ne vont pas voter et d'identifier des remèdes. En France, une des raisons du non-vote, c'est le coût du vote. Évidemment pas le coût financier, mais le coût en termes d'information, le coût en termes de démarches administratives. Il faut s'inscrire sur les listes électorales avant d'aller voter. C'est une spécificité franco-française. Si vous regardez la plus grande partie des pays européens, l'inscription sur les listes électorales est automatique. Donc l'État s'occupe d'inscrire l'ensemble de la population. En France, c'est une démarche individuelle. On pourrait simplifier cette démarche et mécaniquement faciliter la participation pour un grand nombre de nos citoyens.
Est-ce que quelqu'un maintenant à 18 ans n'est pas automatiquement inscrit sur les listes électorales?
Quand on a 18 ans, on est automatiquement inscrit. Le problème, c'est que quand on a 18 ans, à 19 ans, 20 ans, on déménage, on va étudier, on n'est plus, et on reste inscrit au domicile de ses parents.
Alors, on a l'air de faire de la politique ce matin, mais pas vraiment, parce que ce que vous dites dans vos travaux, c'est que du coup, et vous avez raison, le premier argument qu'on entend aujourd'hui des oppositions, c'est de dire c'est un président qui n'a pas été élu avec la majorité des voix, parce que près de la moitié des Français ne vont pas voter. Et ça, ça a des conséquences sur la capacité du politique à pratiquer une politique économique, c'est ça ?
Oui, tout à fait, parce que quand le président a un déficit de légitimité, puisqu'on regarde, on se dit, mais combien de Français ont vraiment voté pour ce président ? Combien se sont déplacés au second tour ? Combien ont voté blanc ? Ça entame sa légitimité à mettre en œuvre des réformes, surtout des réformes économiques qui peuvent être compliquées. Et il y a du coup une tâche très difficile pour le président qui consiste à essayer de recréer du consensus, à créer un dialogue social avec les partenaires sociaux et un dialogue politique avec les autres partis.
Vous enseignez à Harvard, aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans votre enseignement que ce que vous pourriez faire en France ? Vous êtes face à des étudiants qui ne sont pas les mêmes ?
Alors, donc j'enseigne à des étudiants en MBA, et ce qui est la marque de fabrique de la Business School, c'est d'utiliser des études de cas. Avant chaque cours, les étudiants lisent un cas de 10 à 15 pages. J'ai écrit par exemple des cas sur la montée du populisme en France, sur le réchauffement climatique. Et ensuite, le cours est une discussion. Donc en fait, moi, en tant que professeur, je suis dans la position de poser des questions et d'organiser une discussion entre les étudiants qui vont adopter des points de vue différents, qui sont les leurs, sur un problème, par exemple, comment résoudre la question du réchauffement climatique.
Ah ben justement, ça tombe bien, parce que dans 3 minutes, on aura un débrief, notamment avec Emmanuel Le Chypre et Marc Fiorentino. On verra aussi les images en direct devant la salle Pleyel où va se tenir l'assemblée générale de Total Energy. Vous allez être notre professeur pour ce débrief. Quelles sont les questions qu'on doit poser à nos débriefeurs sur le réchauffement climatique, la responsabilité Total Energy ou pas ? C'est ce que disent les activistes. Jean-Marc Daniel nous dit les responsables, ce ne sont pas Total Energy, c'est les Français qui prennent leur voiture le week-end pour aller au bout de la France. Alors, comment on pose le débat ?
Pour moi, la question, c'est pas tant celle de la responsabilité, puisqu'on est tous responsables, on est tous émetteurs de carbone. La question principale, c'est d'où est-ce que la solution peut venir? Et je pense qu'il y a vraiment deux candidats principaux. La première possibilité, c'est que la solution vienne des pouvoirs publics, des politiques mises en œuvre. La seconde, c'est que la solution vienne des entreprises, que les entreprises elles-mêmes, par exemple, adoptent un prix du carbone, comme c'est le cas dans beaucoup de grandes entreprises françaises aujourd'hui, un prix du carbone plus ambitieux que le prix européen. Et à la fin, et ça c'est un des enseignements de cette étude de cas que j'enseigne à mes étudiants, c'est que finalement la solution viendra des gouvernements si les électeurs mettent une pression forte sur leurs gouvernants, pour qu'ils se contentent pas d'organiser des grandes conférences, mais qu'ils mettent en œuvre des politiques ambitieuses. Elle viendra des entreprises, si les actionnaires, si les consommateurs, si les employés mettent une pression.
Vous regardez, exemple très concret, vous avez raison, regardez la taxe carbone, les politiques ont essayé de l'instaurer justement pour influer sur le comportement des consommateurs. Vous avez vu, on a eu les gilets jaunes.
Ça aussi, c'est une expression de la démocratie.
Ouais.
Et est-ce que là, vous avez l'impression que la démocratie, elle s'exprime, qu'il faut l'écouter ou il faut dire...
Elle va dans le mauvais sens.
Vous allez dans le mauvais sens.
Il faut toujours écouter la démocratie.
Même quand elle va dans le mauvais sens, sur la taxe carbone ?
Il faut avoir un dialogue. Il faut que les citoyens eux-mêmes aient un dialogue entre eux. La démocratie, elle repose sur ces discussions qui peuvent avoir entre des personnes et des partis. Je pense qu'il y a une erreur qui a été faite et de la part des économistes, c'est d'insister et de privilégier une solution unique qui était celle d'un prix du carbone, de la taxe carbone. Les États-Unis et notamment Joe Biden ont fait des progrès en se disant qu'il fallait pas seulement utiliser un bâton, mais aussi une carotte avec, par exemple, des subventions aux énergies renouvelables. Et la loi dite de réduction de l'inflation, qui est en fait une loi sur le réchauffement climatique, qui a été passée, va permettre aux États-Unis de faire des progrès considérables. en augmentant les bénéfices aux énergies renouvelables.
Avec les primes notamment pour les Américains qui achèteront des voitures électriques.
Tout à fait. Et les Européens seraient bien inspirés d'imiter les Américains là-dessus avec un programme ambitieux. Le seul bémol, évidemment, dans le programme américain, c'est que c'est un programme très protectionniste. Ces primes sont conditionnées au fait d'acheter des produits qui ont été produits sur le sol américain.
En tant qu'économiste, quand vous voyez les manifestations devant Total, on va voir les images dans un instant, ou celles qui se sont passées à l'AG de Shell, où ils ont chanté « Go to well, Shell », vous leur dites « Continuez, c'est comme ça qu'on aura un impact ». Et c'est là aussi où c'est une sorte de vote, où finalement, c'est pas là que ça se passe.
Alors moi, j'ai pas de recommandations à faire aux manifestants, mais ce qui est certain, c'est que grâce à leur action, on est en train d'en parler aujourd'hui sur ce plateau, et c'est important que on réfléchisse, qu'on parle de façon quotidienne du réchauffement climatique et des remèdes possibles.
L'importance du débat public, effectivement, pour faire avancer les grandes causes économiques ou sociétales, c'est ce que vous nous dites ce matin, Vincent Ponce, professeur associé à Harvard. Merci de passer par Paris. Hein. On vous laissera rejoindre Boston. Prix du meilleur jeune économiste 2023.
Merci beaucoup.